France Inter.
Bonjour à tous. L'armée est-elle en train de renverser le pouvoir à Madagascar après des semaines de manifestations de la jeunesse? Une partie des militaires s'est rangée derrière la génération Z et le président dénonce une tentative de renversement ce matin. Nous irons à Tananarive dans un instant. Mettre fin à la guerre à Gaza, l'américain Donald Trump préside un sommet international demain en Égypte. Mais les deux parties, le Hamas et Israël, ne seront peut-être pas sur la photo. En tout cas, l'État hébreu se prépare à retrouver ses derniers otages encore détenus dans le territoire palestinien. Premier ministre seul comme jamais en France, Sébastien Lecornu au travail pour élaborer son gouvernement, mais avec qui quand tous les partis semblent lui tourner le dos. On s'invitera aussi à la réunion de famille sur le cours du Masters 1000 de Shanghai. Les deux cousins, Arthur Rinderknecht et Valentin Vachereau, disputent en ce moment la finale de leur vie. Et le temps, Céline Dacosta, il y aura encore du soleil cet après-midi.
Oui, il sera largement présent, alors ça restera juste couvert sur la pointe nord et les Pyrénées avec quelques averses.
Météo complète à la fin de ce journal.
France Inter.
La grande île est-elle en train de basculer? Le président malgache Andrei Rajoelin crie ce matin à la tentative de renversement. Une tentative de prise de pouvoir illégale et par la force, dit-il, est en cours, selon le dirigeant devenu la cible de la génération Z. Depuis quelques semaines, les jeunes descendent par milliers dans la rue, d'abord pour protester contre les coupures d'eau et d'électricité et désormais pour contester le président au pouvoir. Hier, des militaires ont rejoint les contestataires, un rallye salué par ces jeunes manifestants.
On déclare aujourd'hui que le peuple malgache a gagné. Nous continuerons à vous donner les consignes sur la suite de la lutte car le limogeage du gouvernement a été fait. Mais ce n'est pas notre but ultime. On veut vraiment établir un nouveau système.
On réclame le jugement du président et de Ravatou Mangé, son financier. Les malgaches attendent ça. On veut aussi le nettoyage au sein de l'armée corrompue et libérer nos membres.
Ce n'est pas fini, il ne faut pas qu'on dise Rajoelina quitte le territoire.
Des manifestants de la Gen Z à votre micro, Sarah Teto, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes, on l'entend, notre correspondante à Madagascar, en direct de la place du 13 mai, devant la mairie de Tananarive. La jeunesse croit ce matin en sa victoire sur le président Rajoelin.
Bah écoutez, oui, et c'est surtout suite au communiqué de la présidence qui a annoncé ce matin qu'une tentative de prise de pouvoir illégale était en cours dans le pays, que la jeunesse y croit. Le chef de l'État, André Azouel, lui, il n'a pas encore pris la parole personnellement. Pour rappel, on ignore toujours où il se trouve à l'instant où je vous parle. Quelques minutes après ce matin, la diffusion de ce communiqué, dans une autre vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les militaires du CAPSAT, ceux-là même qui avaient appelé hier leurs frères d'armes à la désobéissance et à cesser de tirer sur les manifestants, ont annoncé prendre le contrôle de l'armée. Ils viennent d'arriver il y a quelques minutes sur la place du 13 mai, là où je me trouve, cette fameuse place de toutes les contestations historiques de Madagascar. Ils sont donc arrivés à bord de blindés. Ils ont été acclamés par une foule qui hurlait des « Merci CAPSAT ». Là, ils sont derrière moi. Ils viennent de grimper sur une estrade pour prendre la parole tour à tour. Ils sont entourés par des représentants des églises protestantes et catholiques, mais également par plusieurs figures de l'opposition, des députés, mais aussi par l'ex-président Marc Ravalomanana, lui-même chassé du pouvoir par un coup d'État en 2009, coup d'État mené par Andry Rajoelin. Et à l'instant sur scène, c'est le colonel Michael Rantanirin, celui qui avait hier appelé à rejoindre la foule, qui vient de remercier les jeunes. Merci les jeunes, promet-il, Madagascar va changer.
Merci Sarah Teto, en direct de Tananarive à Madagascar pour France Inter. Merci à vous. Les grands dirigeants de la planète se donnent rendez-vous, eux, en Égypte pour un sommet demain présidé par Abdel Fattah al-Sissi et l'américain Donald Trump, sommet pour la paix à Gaza. Une vingtaine de chefs d'État et de gouvernement ont déjà répondu présents, dont Emmanuel Macron, mais aussi le britannique Keir Starmer, l'espagnol Pedro Sanchez, l'italienne Giorgia Meloni. Bonjour Christian Chesneau.
Bonjour.
En revanche, on ne sait pas si les principaux concernés seront présents.
Oui, il reste encore une incertitude concernant la venue du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. En revanche, le Hamas a d'ores et déjà fait savoir qu'il ne participerait pas au sommet de Sharm el-Sheikh. Le mouvement islamiste palestinien a rappelé qu'il n'agissait que par l'intermédiaire de l'Égypte et du Qatar. Ce sommet est une consécration pour Donald Trump qui se veut un faiseur de paix. Tous les participants ont hâte de mettre fin à la guerre. Mais si les ultimes détails pour la libération demain des otages israéliens en échange de prisonniers palestiniens sont en voie de finalisation, le plus difficile difficile et sans doute le plus périlleux reste à faire, c'est-à-dire le désarmement du Hamas et la mise en route d'une transition politique sous supervision internationale pour gérer, d'un point de vue sécuritaire et politique, la bande de Gaza, devenue aujourd'hui une terre brûlée, selon l'expression d'Emmanuel Macron.
Merci Christian Chéneau. Valérie Crova, vous êtes à Tel Aviv. Bonjour.
Bonjour.
L'un des points clés de l'accord, on l'entendait, qui devrait être respecté, c'est la libération des 48 otages encore retenus à Gaza. 20 seraient encore en vie. Les dépouilles des autres doivent être rendues aussi. Valérie, a-t-on une idée de la façon dont ils vont être libérés ?
Alors, quelques informations ont fuité dans la presse israélienne. Leur libération pourrait commencer dès 6h du matin, de façon à ce qu'elle soit terminée à midi. On ne sait pas à quel endroit les otages seront regroupés par le Hamas. Il est probable qu'ils soient tous remis en liberté en même temps. Le Hamas pourrait profiter de l'occasion pour faire une opération de propagande, comme il en a l'habitude. Pour les dépouilles des otages décédés, ce sera beaucoup plus compliqué et plus long, d'autant que le mouvement extrémiste palestinien dit ne pas savoir où se trouvent certains corps. Parallèlement à la libération des otages, Israël doit relâcher 2000 prisonniers palestiniens. Conformément à l'accord passé avec le Hamas, les autorités israéliennes ont commencé à rassembler les détenus dans deux prisons pour faciliter leur transfert vers Gaza, en Cisjordanie occupée ou dans un pays tiers.
Valérie Crova à Tel Aviv pour France Inter. Et le prix Bayeux des correspondants de guerre, premier prix photo, a été décerné à un jeune reporter palestinien gazaoui. Il s'appelle Saher Algora pour sa série intitulée Piégé à Gaza. Entre le feu et la famine, image de la population épuisée par la guerre et par les privations imposées par le blocus israélien. Et si le dialogue pouvait se renouer autour d'une table et d'une même assiette de mezze, de houmous, à Paris, un restaurant est inauguré ce week-end. Sababa, le goût de la paix, installé au consulat Voltaire, un centre culturel. Il est porté par un franco-israélien, Edgar Laloum, et un palestinien, Raja Abou Daga. Car le lieu ambitionne, à travers la gastronomie, Clémentine Sabrier, d'ouvrir la conversation sur les relations entre Israéliens et Palestiniens.
Un dialogue qui commence en cuisine où l'équipe prépare les repas. En créant la carte avec Edgar, Raja s'est rendu compte qu'ils mangeaient la même chose.
On a trouvé que c'était les mêmes plats, les mêmes coutumes, les mêmes habitudes. Même le nom de Sababa qui est palestinien et israélien, ça se compris, surtout à Ramallah, est utilisé par les jeunes. Sababa, comment allez-vous, Sababa? Ça veut dire que c'est parfait, parfait.
Ce mot s'est imposé pour le nom du restaurant qui se veut rassembleur, selon Edgar.
Ces deux peuples-là ont beaucoup de choses en commun sans le savoir. On a tout fait pour les séparer alors qu'ils ont beaucoup en commun.
Un message de père rare, estime Jordan, installé sur une banquette avec un ami.
Ça fait du bien d'avoir des gens qui pensent pas forcément nécessairement la même chose, mais qui œuvrent à travers la musique, la cuisine, la culture. Un avenir meilleur, je pense, j'espère.
Une chanteuse, une poète et un musicien montent sur scène.
J'aperçois une petite fille.
Au-dessus d'eux, des drapeaux palestiniens, français et israéliens entrelacés.
Dans sa belle robe de princesse Barbie.
L'échange passe aussi par la culture, souligne Edgar.
Le langage artistique, le langage de la création traverse les frontières. Et c'est de cette manière-là qu'on va pouvoir essayer d'avoir un échange, des passerelles pour pouvoir continuer à dialoguer ensemble.
Et pouvoir, tout en condamnant les massacres et les morts, imaginer un chemin vers la paix entre les peuples.
Sababa, le goût de la paix, ce restaurant israélo-palestinien dans le 11e arrondissement de Paris. Le dialogue, oui, mais avec qui Sébastien Lecornu peut-il encore discuter ce dimanche pour former son gouvernement? Le Premier ministre dit ce matin dans la presse qu'il reprend tout à zéro, qu'il lui faut un gouvernement plus libre, y compris dans la relation aux partis politiques. La droite LR, après des réunions mouvementées et loin d'être d'accord, a décidé de ne pas participer à Lecornu 2. Bonjour Laurence Perron.
Bonjour.
Du service politique de France Inter, le moine soldat, comme Sébastien Lecornu s'est défini cette semaine, n'a peut-être jamais été aussi seul.
Oui, alors il y a eu déjà cette implosion folle hier chez les LR, les députés de Laurent Wauquiez en fronde, caractérisés contre leur patron Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur démissionnaire, qui intime à ses troupes de ne pas aller au gouvernement. Il y a eu encore hier soir le MoDem, allié historique du macronisme, qui pose ses conditions. Marc Fesneau, le président des députés démocrates, qui se fend d'une tribune. Nous demandons de connaître plus clairement les intentions du gouvernement. C'est sur cette base que nous déterminerons en toute loyauté et en toute transparence la nature de notre soutien. Horizon est clairement dans un sauf qui peut, avec un Édouard Philippe qui réclame une élection présidentielle anticipée. Quant au macroniste historique, depuis la sortie de Gabriel Attal en fonçant qu'il ne comprend plus Emmanuel Macron, on n'a entendu personne. Si, il y a quelques instants, sur le plateau de nos confrères de France 3, dimanche en politique, la ministre démissionnaire, Agnès Pannier-Runacher, réclame désormais une rupture, elle qui pourtant accompagne tous les gouvernements depuis 7 ans, et elle l'assure, elle ne remontera pas sur le navire. Alors restent enfin les socialistes, qui soutiennent désormais Sébastien Lecornu, comme la corde le pendu, et à cette heure, sans concession notable, eh bien, il censure.
Merci Laurence Perron. Un gouvernement même pas nommé, mais déjà sous la menace de la censure, vous le disiez à l'instant, le RN et une grande partie de la gauche ont déjà promis qu'ils déposeraient une motion pour le faire tomber. Quant à la dissolution de l'Assemblée nationale, pour la patronne des écologistes, Marine Tondelier, elle paraît inévitable. Elle était l'invitée il y a quelques instants de questions politiques.
Nous courons à la dissolution. Est-ce que cette dissolution résoudra quelque chose? Je ne le pense pas. La précédente a coûté 15 milliards d'euros immédiatement à l'économie française. Et la dissolution, c'est-à-dire tout le monde repart pour un mois de campagne, d'élection avec pour les Français qui craignent l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite, c'est la boule au ventre pendant un mois.
Donc la chef des écologistes dit « je ne souhaite pas la dissolution ».
Je dis que ça ne résoudra rien.
Mais vous la souhaitez, donc vous ne la
mais
souhaitez
pas. Mais je ne la crains pas. On peut vous dire, le papier est réservé, les imprimeurs sont sur le qui-vive, une équipe a déjà été constituée au siège au cas où il faudrait fabriquer très vite nos bulletins de vote et nos professions de foi. Nous ne sommes pas inquiets, nous ne sommes pas tétanisés, nous n'avons peur de pas grand-chose et sûrement pas du vote des Français. Nous disons juste que ça résoudra pas grand-chose.
La secrétaire nationale des écologistes, Marine Tondelier, au micro d'Alexandra Ben Saïd pour questions politiques. En tout cas, la classe politique ne ressort pas gagnante de cette crise sans fin. Le président du Conseil économique, social et environnementale. Thierry Baudet l'appelle ce matin à se ressaisir.
Je trouve que ça, du point de vue de nos concitoyens, ça conforte l'idée que la classe politique, elle vit dans un monde à part, comme si elle était dans une pièce à côté, pas la pièce où vivent les Français. Et pendant qu'on assiste à toutes ces tractations, les sujets qui les concernent au quotidien, ils ont le sentiment qu'ils ne sont pas adressés, qu'ils ne sont pas pris en compte. Et c'est ça, en fait, qui questionne et qui interroge nos concitoyens. Moi, je crois qu'on a un problème de pratique politique. Il faut chercher à mettre en avant d'abord ce qui nous rassemble avant ce qui nous sépare. C'est la culture du compromis, de la coalition, qui n'est pas au cœur de la pratique française, mais je crois que nous n'avons pas le choix.
Le président du CESE, Thierry Baudet, sur France Info. Ce qui est sûr, c'est que depuis une semaine, vous êtes nombreux, chers auditeurs, à appeler le standard de France Inter pour dire ce que vous en pensez, pour poser vos questions. Alors demain, France Inter vous fait de la place et vous donne la parole dans le 5-7, dans la grande matinale, dans le 13-14 et dans le téléphone sonne, bien sûr. Les invités, c'est vous, la France, en crise politique. Comment on s'en sort? Vous pouvez déjà nous laisser des messages WhatsApp au 01 45 24 7000. Et la politique nationale jouera-t-elle sur cette élection aujourd'hui dans le Tarn-et-Garonne, législative partielle? Elle oppose un candidat UDR soutenu par le RN, Pierre-Henri Carbonel, à une candidate socialiste, Cathy Bourdoncle. Le LR éliminé au premier tour n'a pas souhaité donner de consigne de vote, contrairement à son chef de parti, Bruno Retailleau. Lui, il a appelé à ne pas donner une voix à la gauche. Le concert de rap a dégénéré hier au Halles, à Paris. 8 personnes ont été interpellées et placées en garde à vue. Après ce concert de L2B, un show gratuit, la jauge prévoyait 800 personnes, ils ont été 2000 à vouloir y assister. La préfecture a demandé l'annulation de la deuxième partie, craignant les possibles débordements. Et le ton est monté entre une partie du public et les forces de l'ordre. 4 policiers ont été légèrement blessés. Caves inondées, transport à l'arrêt, l'électricité coupée et des évacuations par milliers à Paris. C'est le scénario catastrophe qui va se jouer demain. Un exercice pour se préparer en cas de crue majeure de la Seine, comme celle de 1910. Pour sensibiliser aussi les habitants à ce type de catastrophe probable, l'inondation présente le premier risque naturel qui menace la capitale. Jusqu'à 700 000 personnes pourraient être touchées. La préfecture de police organise également un exercice à l'échelle de l'Île-de-France. Hydros 2025, c'est son nom, là pour anticiper une évacuation. Ces maladies empoisonnent la vie de 350 000 personnes en France. La polyarthrite et les rhumatismes inflammatoires chroniques. Un salon est organisé ce week-end à Mulhouse pour échanger autour de ces pathologies très répandues et pourtant assez mal connues du grand public, comme par exemple Aurélie Loquet, la polyarthrite.
Les premiers symptômes peuvent apparaître dès le début de l'âge adulte. Jacques Ilib a été diagnostiqué dans les années 2000.
Dans un premier sens, c'est des réveils nocturnes avec des douleurs dans les articulations. Donc ce sont les genoux, les mains, les poignets, les coudes.
Un véritable coup de massue pour le Haut-Rhinois.
Et puis il faut l'accepter. Souvent les gens sont dans le déni, ils ne comprennent pas. Et c'est vrai que moi-même, je suis passer par là. Et c'est vrai qu'on n'en guérit pas.
Pour une bonne prise en charge, il faut détecter la maladie le plus rapidement possible, prendre un traitement pour limiter les poussées inflammatoires et les déformations, et aussi la douleur. Le docteur Marc Harrison, médecin-chef du service rhumatologie au GHR Mulhouse Sud-Alsace.
Ça peut aller de choses très classiques que l'on connaît, hein, la kinésithérapie, mais également les antalgiques. Il y a aussi des méthodes non médicamenteuses pour soulager la douleur. Alors on peut imaginer la sophrologie, parfois la méditation ou l'hypnose.
Malgré tout, la polyarthrite change la vie des malades. Alors le soutien est très important, souligne Jackie Lieb, qui est aussi président orinois de l'association des polyarthritiques.
On a des gens qui ont les larmes aux yeux parce qu'ils ne comprennent pas. S'ils sont fraîchement diagnostiqués, c'est très difficile. Hein.
Une permanence est organisée chaque mois à Ensisheim.
Le reportage ici, Alsace, d'Aurélie Loquet. Vaccinez-vous contre la grippe et la Covid-19. La campagne va débuter cette semaine. Près de 19 millions de Français sont concernés en métropole. Surtout les plus de 65 ans, mais aussi les femmes enceintes et les malades chroniques sont incités à se protéger. La grande majorité des soignants peut recevoir une dose également. Depuis la fin de la crise Covid, les Français se vaccinent moins et on en a vu les effets l'hiver dernier. La grippe particulièrement sévère a tué 17 000 personnes selon Santé publique France. 17 000 contre environ 10 000 d'habitude. Eux étaient au top de leur forme pour le match de leur vie. Deux cousins originaires de la Côte d'Azur en finale du Masters 1000 de Shanghai. Le match vient de se terminer entre Valentin Vachereau et Arthur Rinderknecht. Bonjour Fabrice Abgral.
Bonjour.
Alors ce dimanche en famille, c'est le moins bien classé qui l'a emporté ?
Oui, c'est Valentin Vachereau, le monégasque, 204e joueur mondial, qui a battu son cousin Arthur Rinderknecht, le 54e mondial, en 3-7, 4-6, 6-3, 6-3, le tout ficelé en 2h14. C'est un exploit considérable, comme vous pouvez l'imaginer, puisque Valentin Vachereau est tout simplement le joueur le plus mal classé de l'histoire à remporter un Masters 1000, qui plus est à Shanghai. Les Masters 1000, c'est tout simplement les tournois les plus importants derrière les quatre tournois du Grand Chelem. Il a remporté tout simplement son premier titre, hein, Valentin Vachereau à 26 ans, il est le premier monégasque à vainqueur d'un tournoi sur le circuit professionnel. Incroyable, hein, rendez-vous compte, hein, depuis le début de sa carrière en 2021, il n'avait gagné que 2 des 11 matchs qu'il avait disputés sur le circuit principal. Et il n'avait gagné cette année qu'un seul match sur le circuit pro. Là, il en a gagné 9, qualifications comprises, et il a gagné un tournoi qu'il n'aurait jamais dû jouer, puisqu'il y a un mois, il disputait un tournoi challenger de deuxième division, et il avait été battu au premier tour par le 311e mondial. Il est venu en Chine sans savoir s'il allait pouvoir y participer, puisque son classement ne lui permettait pas. Il y a eu des forfaits, il a joué les qualifications, il a joué le tournoi, et ce tournoi, eh bien, il l'a gagné en battant donc son cousin Arthur Rinderknecht. Ce n'était que son 4e Masters 1000, le premier en dehors de Monte Carlo, où comme monégasque, il a toujours bénéficié jusqu'à présent d'invitations pour y participer. Puis un dernier mot, il entre pour la première fois dans le top 100 pour devenir 40e mondial, soit 164 places de gagné en un seul tournoi.
Pas mal, Fabrice Amgral, notre expert tennis à France Inter. Jolie performance aussi pour une toute jeune surfeuse française, une surfeuse française. Tiya Zebrowski n'a que 14 ans. Elle vient de décrocher sa place pour participer au Championship Tour l'an prochain. Tiya devient la plus jeune surfeuse de l'histoire à accéder à l'élite, et sa famille n'y est peut-être pas pour rien là aussi, puisque son père est le snowboarder olympique Gary Zebrowski. La jeune sportive est licenciée à Osgore, mais elle réside une bonne partie de l'année près de la vague olympique de Teahupo à Tahiti, qu'elle surfe depuis ses 8 ans. Et l'on termine par une sortie très attendue pour les amateurs de jeux vidéo, le 3e épisode de Little Nightmares. Une franchise discrète, mais elle s'est tout de même vendue à plus de 20 millions d'exemplaires en 8 ans. Un petit cauchemar, c'est la traduction en français, hein, que l'on peut pour la première fois parcourir à deux. L'occasion idéale, nous dit Olivier Bénis, pour découvrir cet univers singulier entre l'horreur et les films de Tim Burton.
Comme Six et Mono, les héros des deux premiers Little Nightmares, Low et Alone sont deux tout petits personnages perdus dans un monde trop grand pour eux, peuplé de géants difformes. Pour Coralie Feniello, productrice de ce 3e épisode, c'est ce décalage qui fait le succès de la franchise.
Le côté peur d'enfance, c'est quelque chose qui parle aux gens, c'est quelque chose qui va faire ressortir des choses chez les gens. Et il y a cet aspect qui n'est pas non plus de l'horreur, gore ou ce genre de choses. Nous, en anglais, du coup, on parle de charming horror, donc d'horreur charmante en français, je dirais. Donc quelque chose qui va être vraiment une espèce de dichotomie entre le côté lumineux et positif des enfants, dans cet univers qui est complètement négatif, et je pense que ça parle aux gens. Ouais.
Autre particularité, une narration sans parole, car si les développeurs ont bel et bien une version écrite et secrète de l'histoire, les joueurs sont incités à l'élaborer collectivement.
Tout ce qui va être plus détail et compréhension fine de l'univers, tout ça, on va vouloir le mettre dans l'environnement. Notre communauté fait des théories en permanence, il y a plein de choses sur internet, et c'est super intéressant de voir ce qui vont ressortir de cette narration environnementale. Quoi. Nous, ce qu'on adore faire, c'est mettre justement des éléments dans l'environnement qui vont leur permettre d'étayer leur théorie.
Et comme les plus peureux peuvent désormais parcourir le jeu à deux, il n'y a plus d'excuses pour ne pas se laisser happer par ce charmant petit cauchemar.
Little Nightmares 3, c'est sur PC et console. Le temps.
La météo avec TGV Inouï. Avec 200 destinations en France et vers l'Europe, découvrez que ce n'est pas l'automne partout.
Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Amélie, bonjour à tous.
C'est un après-midi calme et plutôt ensoleillé.
Oui, globalement c'est le soleil qui domine, un petit peu comme hier, mais dans le détail on trouve encore de la grisaille, une grisaille persistante sur le Nord-Pas-de-Calais par exemple. On espère quelques éclaircies en deuxième partie d'après-midi. Il reste quelques nuages bas comme souvent sur le Val-de-Saône. Le ciel se voile entre le comté niçois et la Corse et puis on a des nuages avec quelques averses possibles sur les Pyrénées. Ça c'est la perturbation Alice qui est présente sur l'est de l'Espagne et qui déborde un petit peu chez nous.
Et pour les températures, c'est comme hier.
Oui, avec une moyenne de 17 à 22 degrés sur la moitié nord, 19 degrés à Paris, 23 à 27 degrés, ça c'est pour la moitié sud, avec la maximale pour Montauban. Il n'y a que sous la grisaille persistante que ça ne va pas beaucoup grimper, comme à Lille, avec 16 degrés, ou en Berrieux, c'est dans le Val-de-Saône justement, et on ne dépassera pas les 15 degrés.
Merci Céline Dacosta.